Allô, c'est Alex, thérapeute spécialisée en gestion des émotions et fondatrice de Branche-toi sur toi. Branche-toi sur toi, c'est comprendre que la seule personne sur qui tu peux te brancher pour avancer, c'est toi. Parler de ses émotions et faire un cheminement personnel, c'est pas obligé d'être lourd puis c'est pas obligé d'être plate. Moi, ce que j'ai envie dans ce balado, c'est de te parler à ma façon et de t'inviter surtout à prendre conscience de tes émotions et de ce que tu vis à tous les jours, comme moi. Alors, relax, écoute et branche-toi sur toi. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Branche-toi sur toi, en plein milieu du bois, ce deuxième épisode, dans le fond du bois à Rawdon. Avec des amis, je me suis dit que ça serait une situation relaxe et idéale pour jaser d'éducation, parce que il y a un article qui est sorti récemment d'une chronique de Geneviève Peterson qui a fait le tour des réseaux sociaux sur les profs et les éducatrices qui étaient à bout des parents dans l'éducation, des parents qui, selon leur dire aux éducatrices et aux enseignants, que les parents ne prennent pas leurs responsabilités, se détachent de leur rôle de parent, etc., ce qui fait en sorte que ça crée des comportements chez les enfants et que les adultes qui sont en charge de ces enfants-là dans les garderies ou les écoles, ben, se retrouvent avec des enfants qui font des crises, qui font un paquet de trucs en bout de ligne, qui ont des comportements auxquels on n'est pas nécessairement habitué d'avoir. Alors, je me suis dit, quelle belle opportunité d'être dans un chalet en fin de semaine et de discuter avec ça avec des amis. Isabelle.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Isabelle, qui est éducatrice spécialisée.
Oui, TES en milieu scolaire, au primaire, avec les petits.
Depuis?
25 ans.
25 ans!
25 ans minimum!
Et Annie?
Oui!
Annie qui est?
Orthopédagogue au primaire, mais j'ai fait plusieurs mandats auparavant. Voilà, toujours auprès d'enfants du primaire depuis 24 ans.
Minimum!
Minimum!
Fait qu'Annie qui a aussi été prof et qui a fait un paquet de mandats dans les écoles.
C'est
là.
Ça. Je suis aussi maman de deux enfants, deux adolescents, 13 et 15 ans.
Qui fréquentent l'école publique.
Voilà.
Aussi. Et on a une autre Annie qui va choisir de parler quand elle veut, qui est maman de deux enfants aussi à l'école publique.
Deux petites filles, 10 et 8 ans.
À l'école primaire. Puis moi, j'ai enseigné aussi pendant 7 ans dans une école secondaire, au public, en adaptation scolaire, et j'ai aussi deux enfants qui vont à l'école publique au primaire. Alors, on est tous un peu impliqués là-dedans, où on a notre mot à dire par rapport à ce qui se passe dans les écoles, la façon dont on le vit. Et je me suis dit que ça serait le fun d'en discuter, parce que moi, ce que je lis dans les réseaux sociaux, souvent, ou les articles, c'est la rage ou la colère envers les parents. Et en tant que thérapeute spécialisée en gestion des émotions, je me dis, moi, quand je décortique cette colère-là, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être, cette colère-là, parce qu'en dessous de la colère, il y a toujours une anxiété, puis en dessous d'une anxiété, il y a toujours une dévalorisation. Fait que les éducatrices et les enseignants qui sont en colère contre les parents, je trouve qu'on... on s'attaque pas au vrai problème du système d'éducation.
Oui, parce que c'est moi je trouve que c'est une dualité qui devrait pas exister. On met en opposition un parent contre un enseignant, puis je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait voir ça. Puis, mais à l'inverse, je peux comprendre à l'intérieur du système, tu parlais que derrière la colère, une dévalorisation, c'est sûr que un enseignant qui n'a pas la possibilité d'enseigner parce qu'un enfant qui fait beaucoup de crises, ben c'est son sentiment de compétence qui est atteint, donc il va se dévaloriser par rapport à ça. Puis ça, on le voit là, dans les écoles. Moi, je suis en accompagnement avec les équipes écoles devant des élèves, ben, pour les soutenir avec des élèves qui sont en bris de fonctionnement. Et c'est souvent le discours qu'on a, c'est comme, ben, je peux pas enseigner, je peux pas y arriver, je peux pas le faire. Donc, la dévalorisation, elle est quand même nommée derrière ça. Oui.
Puis je peux pas le faire, puis souvent on veut attribuer la faute à quelqu'un, tu sais. Comme le prof va attribuer la faute aux parents qui se responsabilise pas ou qui éduque pas son enfant à la maison ou qui fait pas son rôle de parent. Et là, ben, on tombe dans un conflit, puis là, ça devient dur de collaborer là, en bout de ligne. Là.
Puis moi, je pense qu'il y a aussi une mauvaise compréhension des deux parties.
Ouais.
Il y a une mauvaise compréhension de l'enseignant ou des intervenants scolaires sur la situation que vit le parent, peu importe la situation. Et il y a aussi une mauvaise compréhension de la part de certains parents du milieu scolaire. Ce qui fait que ça engendre toutes sortes de colères. Puis on devrait être dans la collaboration puis comprendre la situation de chacun. Mais tu sais, l'approche gagnante, c'est d'être dans la collaboration plutôt que dans la colère.
Puis dans le conflit. Puis ce qui fait qu'on est en conflit puis qu'on collabore pas, c'est que ce que j'enseigne en bureau aussi quand je vois des clients ou en atelier, c'est que on oublie toujours d'aller voir la perception de la personne qui est en face ou la façon dont elle fait les choses ou qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle vit. À la place d'aller chercher cette donnée-là pour mieux comprendre l'autre, on essaie de juger l'autre avec nos propres perceptions, puis notre propre vécu, puis notre propre valeur. Donc, en bout de ligne, on ne s'écoute pas.
Voilà.
Puis ça fait en sorte que le parent est fâché parce qu'il ne va pas voir la perception de l'enseignant. Puis l'enseignant est fâché. Je dis enseignant, mais ça peut être n'importe quel intervenant. Et l'autre aussi est fâché parce qu'il ne va pas chercher la donnée du parent, puis le vécu du parent, puis exactement ce qu'il pense de la chose. Puis là, ben ça fait qu'en bout de ligne, il y a une faille.
Effectivement, le parent peut se sentir jugé aussi par le milieu scolaire qui appelle à la maison pour dire, ben là, votre enfant a des difficultés. Puis là, tout de suite, il va rentrer dans la culpabilité. Puis s'il n'y a pas une collaboration qui s'installe, comme tu disais, Annie, tantôt, ben c'est une dualité qui va s'installer parce que le parent se croit incompétent, puis l'école se croit aussi incompétente. Donc là, toutes ces émotions-là rentrent en ligne de compte, là, effectivement. Là.
Puis là, tout le monde vit dans une grosse anxiété de « j'ai peur ». Le parent a peur que son enfant n'y arrive pas, mais l'enseignant aussi a peur que l'enfant n'y arrive pas. On a les mêmes objectifs, mais on ne se comprend pas
voilà. Dans
tout ça.
Ouais.
Parce qu'on est trop occupé à avoir des conflits ou à défendre sa valeur. Tu sais, il devrait pas me parler de même. Hey, toi, tu devrais pas faire ça. Toi, tu devrais pas. Mais au lieu d'être dans les tu devrais pas, ça serait avantageux d'aller discuter justement. Hey, comment ça se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Et vice-versa, de s'asseoir et de dire hey, dans la classe, là, expliquez-moi votre point de vue. Comment ça va? Au lieu de penser qu'on a toujours la réponse ou la vérité, il n'y en a pas de vérité, tu sais. Il y a juste des perceptions de chacun des côtés. Puis, ce que je trouve plate dans l'article, ben en fait, c'est des propos qui sont reliés, qui sont relatés, qu'elle a reçus, Geneviève Peterson, de gens qui travaillent dans le milieu scolaire. Moi aussi, je travaille là-dedans. C'est 95% du temps, c'est des mots qui sortent de tous les intervenants, là. On est à bout, on est à bout, on est à bout. Mais hier, on avait une discussion, Isa, sur la société en soi. Tu sais, il y a une raison pourquoi les parents agissent de cette façon-là.
Effectivement, parce que il y a comme une exigence de la société de par l'époque dans laquelle on vit, qui est extrêmement individualiste, capitaliste. On veut atteindre des standards, mais au final, c'est quoi le standard? Parce que le standard augmente constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis pendant qu'on veut répondre à ce standard-là, il y a peut-être quelque chose de plus simple qu'on à mon avis, là, qu'on peut oublier ou qu'on peut passer à côté, qui est juste de prendre soin de son enfant, qui est juste de prendre le temps de faire des choses avec, d'arrêter d'être étourdi par un paquet de trucs parce que la société nous demande ça. C'est comme les maisons, maintenant, c'est des prix de fou. Le parent doit travailler deux fois plus, il doit atteindre des standards lui-même pour pouvoir offrir des choses à ses enfants, puis tout ça. Donc, il y a comme une roue, là, qui comme un engrenage qui est là, qui se met en place. Mais l'essentiel, c'est l'enfant, à la base, qui est oublié dans son réel sentiment. Il y a plein de trucs qui... Il est aimé, c'est clair, il manque de rien, c'est clair, on s'entend, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de ses besoins ou pas. T'sais, en tout cas, ça peut être questionnant, là, des fois. Là. Ça peut être, ouais. C'est mon humble avis, hein. C'est pas scientifique,
ben,
là.
Ben, c'est des choses qu'on voit. T'sais, même moi, quand je vais chercher mes filles, souvent, il y a des gens au téléphone, ils sont encore en train de travailler pendant qu'ils vont chercher leurs enfants. Vite, dépêche-toi, pogne tes bottes, pogne tes affaires, let's go. On est comme pris en tant que société dans un mode de vie qui est jamais assez, on travaille jamais assez, on n'a jamais assez de temps, faut toujours aller plus vite, faut toujours se dépêcher, faut toujours, mais ça, c'est quelque chose qu'on a construit en société, ça, puis qu'on est pris là-dedans.
Puis, tu sais combien de fois qu'on va voir, je sais pas si vous autres, vous le vivez, mais moi, ça m'est arrivé souvent de voir un parent qui vient chercher l'enfant à l'école, au service de garde, et l'enfant s'habille lentement, il est dans son univers, tu viens de l'arrêter de jouer, puis là, t'as le parent qui attend, qui est hyper pressé, puis qui rush l'enfant à s'habiller encore plus rapidement. Fait qu'on vient comme teinter l'enfant déjà d'un stress parce qu'il faut rentrer à la maison, parce qu'il faut faire les devoirs, parce qu'il faut faire à souper, parce qu'il y a le cours de karaté, parce qu'il y a, mm-hmm. y a une bonne raison à ça, t'sais, mais l'engrenage, je trouve que elle est facilement palpable quand tu vois des comportements comme ceux-là.
Puis souvent, on le voit pas. On le vit, mais on oublie de s'arrêter pour penser à... Attends un petit peu, là. En tant que parent, moi, je pense que le questionnement, il est là, de se questionner à dire pourquoi, là, attends, pourquoi je suis aussi pressée, là? Pourquoi je suis obligée d'adhérer à ça? Puis c'est là que je pense que le parent, il peut faire un shift dans un shift de pensée, là, changer sa pensée par rapport aux standards de la société. Puis souvent, c'est quasiment mal vu des fois quand tu choisis d'être plus relax ou tu choisis de lâcher prise ou les gens te regardent comme si...
Tu deviens marginal, oui.
Puis quand dans le fond, tu fais juste le choix de soit travailler moins ou... gérer tes choses d'une autre façon ou pas inscrire ton enfant à 5 cours par-ci, par-là, ou tu sais, ça reste un choix, mais en bout de ligne, de te dire, attends, c'est assez, là. Wow! C'est pas vrai que c'est jamais assez, mais avec les réseaux sociaux, les affaires qu'on voit, on se dit, hey, eux autres sont bien meilleurs que moi. Tu sais, ça part d'une dévalorisation aussi, de toujours vouloir être meilleur, puis toujours vouloir atteindre des standards ou un niveau de vie, un mode de vie, un salaire. Ça part d'une grande dévalorisation personnelle, ça.
Mais j'imagine aussi qu'on peut se dire en tant que parent qu'on veut donner le meilleur à son enfant quand on l'inscrit dans des cours, quand on, ouais. On veut développer son potentiel. On se fait dire ça aussi. Il faut développer le plein potentiel de son enfant. Des fois, c'est pas assis dans une classe que ça se passe, mais c'est en parascolaire, c'est en... Fait que j'imagine que pour un parent, moi, je suis pas parent, là. Vous autres, vous l'êtes, pas moi. Mais j'imagine que pour un parent, ça peut être ça aussi qu'on se dit ou qu'on se met comme pression. C'est comment je peux faire pour que mon enfant développe son plein potentiel. Fait que on l'inscrit dans un paquet de choses, puis peut-être qu'au final... Ça nous enlève une certaine parcelle de qualité de vie ou ça nous en donne, je ne sais pas trop, là, comment. Mais parce que, oups, ça nous occasionne un stress au financier, il faut le payer. Deux, il faut se lever le matin, il faut y aller ou il faut le faire le soir après l'école, après les devoirs. Tu sais, ça l'amène. Fait que je pourrais comprendre que vous soyez ou qu'un parent soit dans cette option-là aussi. Mais encore là, c'est l'idée qu'on se fait que dans la société, c'est ça. On nous dicte qu'il faut ça, fait qu'on décide de le faire, mais on réalise peut-être pas toujours l'impact que ça peut avoir ailleurs sur autre chose.
Puis aussi, tu parles de plein potentiel. T'sais, c'est quoi un plein potentiel? T'sais, c'est une question de perception, puis c'est une question aussi de pas imposer ça à l'enfant non plus. T'sais. Combien de fois on voit des élèves dire « Ah, mon père veut que je sois ingénieur, mais l'enfant est en difficulté, il est en difficulté d'apprentissage, puis lui, il se dévalorise parce qu'il n'est pas capable d'atteindre ce que ses parents veulent, disons. » Ça, c'est pour avoir vécu ça dans mes classes, tu sais. OK, oui, c'est développer le plein potentiel, mais d'être réaliste aussi dans la réalité de l'enfant sans vouloir pousser à des standards qui ne sont pas réalistes,
mm.
Tu sais.
Ouais.
Il y a ça aussi là-dedans, moi, que je vois beaucoup. Puis c'est quoi un plein... Vouloir... Pourquoi on veut développer autant le plein potentiel d'un enfant au lieu de le laisser découvrir, lui, dans ses envies, qu'est-ce qu'il a envie. Tu sais, c'est ça, des fois, je trouve que ça tombe dans les failles, tu sais.
C'est vrai qu'on laisse pas le temps aller, ou on laisse pas... On prend un concept comme celui-là, puis on se dit, OK, on l'inscrit là-dedans, il va peut-être t'accrocher quelque part, alors que ça pourrait être aussi que naturellement, il va aller explorer des zones, il va rencontrer des amis qui font ci, qui font ça, ils vont jouer à ça dans la rue, ils vont... C'est peu importe, là. Mais juste laisser le temps faire les choses aussi peut...
Puis laisser l'enfant aussi.
Oui.
Puis moi, je pense que chaque enfant est différent, là.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais... comme chaque parent est différent aussi, là. Puis, des fois, ben oui, il faut pousser un petit peu plus pour que l'enfant explore, parce qu'il y a des enfants qui n'exploreront pas d'eux-mêmes, tu sais. Mm-hmm. C'est de respecter après ça. Puis, si on fait référence à l'article de Geneviève Peterson qui parle des parents à bout, qui se désengagent et tout... moi, je voudrais juste pas qu'on tombe dans une espèce de généralisation. Autant le parent très, très engagé qui veut inscrire son enfant dans tout, autant le parent qui se désengage. Moi, je pense que toutes sortes de parents qui vivent toutes sortes de choses avec notre société actuelle, puis il faut pas en faire une généralisation. Puis il faut vraiment aller voir si on veut le meilleur de l'enfant, mais il faut aller voir... le parent, qu'est-ce qu'il vit, lui, dans son mm-hmm. contexte, puis l'enfant, lui, c'est quoi ses besoins, tout part de là.
Parce qu'il y a une raison pourquoi, on dit désengagement, là, mais il y a une raison pourquoi le parent s'implique moins ou s'implique d'une façon différente ou peu importe ce qui va se passer, tu sais. C'est ça, moi, que je dis, c'est qu'au lieu de vivre de la colère par rapport aux parents qui se désengagent, ben allons voir pourquoi il y a ce comportement-là, le parent, parce qu'il vit de la pression, parce que il se passe telle affaire dans sa vie, parce que pour se désengager, entre guillemets, parce que là, si je réutilise les mots qui ont été publiés, là, se désengager ou se déresponsabiliser, c'est qu'à quelque part, si l'enseignant ou l'éducateur ou peu importe est à bout, ben le parent aussi, s'il est dans ça, c'est parce qu'à quelque part, il est à bout de quelque chose.
C'est ça.
Fait que les deux sont dans le même monde... mais vivent la colère un envers l'autre quand, dans le fond, si le parent se désengage ou déresponsabilise selon les dires ou les mots, ben pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Tu sais, il veut essayer d'avoir des sous, il essaye d'avoir un standard X, il n'est pas dans la réalité, il est dans un monde où il ne sait jamais assez, il se dévalorise, il est anxieux, il y a plein de raisons pourquoi un parent va en arriver là. Mais en bout de ligne, on est tous dans le même bateau. Fait que pourquoi on vit de la colère envers l'autre? Ben, en dessous de la colère, c'est une grosse anxiété. L'anxiété de ne pas être capable de faire son travail en tant que prof. L'anxiété de ne pas être capable de faire son travail de parent. L'anxiété que le monde me trouve poche, que, tu sais, là, c'est là-dedans qu'on vit, là. Mais on oublie de rester dans le moment présent, puis on oublie de se parler. Selon moi, dans mes expériences là, de ça, là, on oublie de se parler, puis on oublie de voir de l'autre côté de la clôture, puis d'oublier un peu ce qu'on vit, nous, pour aller voir l'autre. Puis c'est comme ça qu'on réussit à communiquer, tu sais. Parce que c'est toujours là qu'en bout de ligne, t'as « Ah, ben je l'avais pas vu de même. Ah, ben j'avais pas pensé ça. Ah, ben tu sais. » Puis ça, c'est vrai avec... pas juste les profs et parents, c'est vrai avec un conjoint-conjointe, c'est vrai avec un parent-enfant, c'est vrai avec tous les types de relations, tu sais. En bureau, j'ai souvent, ben oui, mais est-ce que tu penses que tu es à l'écoute de ton enfant ou de ton élève quand je fais des ateliers en milieu scolaire? Oui, oui, mais pour se rendre compte, en bout de ligne, qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre. On essaie d'imposer notre façon de voir les choses, mais on n'écoute pas vraiment ce que l'autre a à dire. Puis c'est la clé dans tout ça, d'écouter ce que l'autre a à dire, puis de travailler avec ça, et non pas en essayant d'imposer un paquet d'affaires, tu sais. Puis ça, c'est même vrai avec les ados, là. Oui, mais t'es-tu allé voir pourquoi qu'il te dit ça? Tu sais, s'il est en colère, t'es-tu allé voir? Pourquoi il est en colère? Non, je suis trop maudit. Bon, ben OK, mais c'est pas contre toi qui est fâché. Fait que décortiquer tout ça... J'ai une enseignante qui l'a fait dernièrement parce qu'elle a fait les ateliers « Branche-toi sur toi » dans son école. Et elle a changé sa façon d'intervenir avec une élève qui rentrait toujours en colère dans sa classe puis qui n'était pas disponible à l'apprentissage du tout. Puis quand elle a compris qu'en dessous de la colère, c'était de l'anxiété puis qu'en dessous de l'anxiété, c'était de la dévalorisation, elle s'est rendue compte que « Attends, je vais l'aborder autrement. » Parce que là, elle prenait personnel à chaque fois que l'élève rentrait dans sa classe. « Maudit est fâché contre moi, maudit encore, ta-ta-ta-ta-ta. » Ça, c'était dans sa tête, tu sais. Là, quand elle l'a abordé autrement pour aller voir elle, sa perception de la chose à la jeune fille, elle l'a abordé en anxiété au lieu d'aller être fâchée, elle aussi, avec une colère puis un conflit. Elle a dit « Hey, t'as-tu peur de quelque chose à l'école? Qu'est-ce qui te fait peur? T'as-tu peur d'échouer? » Fait que là, elle a abordé l'élève en anxiété. « T'as-tu peur de ne pas être bonne? » Fait que là, elle l'a abordé d'une autre façon en laissant la colère de côté pour aller voir ce que la jeune pensait. Puis effectivement, la jeune se trouve poche, a peur d'échouer son secondaire, a peur que de ne pas réussir à atteindre les standards de ses parents. Elle a de la pression énorme sur les épaules. Fait que sa colère, c'est ça. Donc, quand tu vas voir l'élève, là, tu ne peux pas être en colère contre elle. Elle a vécu tout ça. Puis là, l'élève, depuis ce temps-là, au lieu de rentrer en colère dans la classe, elle rentre dans la classe. « Hey, bonjour madame, ça va bien aujourd'hui? » Puis là, elle est disponible à l'apprentissage. Puis ça a pris une intervention. Mais ça a pris une enseignante qui a pris du recul par rapport à sa propre colère et puis qui est allée voir la perception de l'élève en soi abordée d'une autre façon au lieu de générer un conflit puis de le prendre personnel, tu sais. Puis ça fait toute une différence en bout de ligne. Ça peut faire une différence entre le parent et l'élève, entre la direction et le prof, tous les liens que tu peux faire entre les personnes. Ben si tu vas voir la perception de l'autre pour essayer de la comprendre, tu vas en arriver à un meilleur résultat au lieu d'imposer quelque chose qui est selon tes valeurs ou tes convictions à toi, tu sais.
Et c'est sûr que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Puis tu parles d'ado, là. C'est sûr que pour aller chercher la perception de nos ados, là, étant maman d'ado, il faut travailler fort. C'est long, des fois, avant qu'on puisse avoir les vraies réponses. Ça prend du temps, mais au bout du compte, là, c'est payant parce qu'on arrive à comprendre là, c'est quoi la vraie affaire. Puis on arrive à s'ajuster par rapport à ça. Mais c'est sûr que ça demande du temps. Faut prendre le temps de s'asseoir. Faut saisir aussi le bon moment. Parce qu'on peut bien vouloir essayer de voir la perception de l'autre, là. Mais si l'autre n'est pas ouvert puis n'est pas disponible à ça, faut être capable aussi de saisir le bon moment. Mais moi, je pense que quand on met tout ça en place, là, c'est vraiment gagnant.
C'est là que c'est intéressant, la collaboration, parce que des fois, un adolescent va parler davantage à des personnes qui sont moins impliquées personnellement, donc ils vont parler aux gens de l'école, à des profs, mais ils parleront pas nécessairement aux parents. Mais quand tu es dans une collaboration, puis que tu cherches à comprendre hein, c'est quoi la fonction de son comportement, pourquoi il est comme ça, pourquoi il agit comme ça, si tu es en réelle collaboration, tu n'es pas dans une dualité... un en opposition de l'autre, mais plutôt ensemble. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de répondre aux besoins de l'enfant puis d'être capable de dénouer parce qu'on va être davantage à l'écoute de l'enfant de part et d'autre. Donc, l'enfant va juste pouvoir comme déposer ça puis essayer de cheminer au travers de tout ça, là, au travers de ce qu'il nomme. Ouais, donc le concept de collaboration, ouais, il est très important.
Puis tu sais, je parle de disponibilité puis d'ouverture, là, tu sais. Puis pour avoir discuté souvent avec Alex, ben on sait que pour avoir parfois cette ouverture-là, ben il faut se montrer vulnérable aussi. Donc, se montrer vulnérable avec notre enfant, se montrer vulnérable avec les parents, afin qu'ils ne se sentent pas jugés. Je pense que la clé est là aussi, là.
Ouais.
Ça permet une belle ouverture et une belle disponibilité après.
Puis tu sais, pour aller voir la perception, puis que tu l'as dit tantôt, il faut prendre le temps, c'est avantageux de prendre le temps. Mais c'est ça qu'on dit depuis tantôt, on ne prend plus ce temps-là.
C'est ça. Ouais.
Puis les jeunes, on ne prend plus le temps avec eux pour avoir ce genre de discussion-là. Eux aussi sont bombardés d'un paquet d'affaires, puis ils vivent dans l'anxiété, puis ils vivent, écoute... Moi, avoir vécu ma jeunesse bombardée par des réseaux sociaux, tout ça, moi, je sais même pas comment ils réussissent à gérer ça. En fait, nous-mêmes, on a de la misère à gérer nos téléphones, nos affaires, nos distractions. Eux sont encore moins outillés en tant que jeunes enfants, adolescents à ça. Fait qu'ils vivent dans un monde qui est complètement irréel. Ils savent plus faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Puis nous, ben, dans notre façon de vivre de la société qu'on disait tantôt, vite, vite, non, c'est pas allé. On prend plus le temps de discuter de ces affaires-là avec nos jeunes, puis on est occupé à atteindre des objectifs, puis à atteindre des affaires, puis, tu sais, l'autre fois, j'avais une discussion en classe, dans un atelier, dans une école, une prof, ça avait été le bordel dans sa classe, et finalement, au bout de ligne... Elle a envoyé plusieurs élèves au local de retrait. Elle sortait des... À quoi il s'est passé un paquet d'affaires dans cette période-là. Puis elle, elle a vécu une grosse colère, écoute, mais sa colère était basée sur son anxiété de livrer la matière parce qu'il y avait un examen la semaine d'après. Elle avait peur de ne pas donner toute la matière, donc...
Sentiment d'incompétence.
Si je donne pas toute la matière, je ne serai pas une bonne prof. Fait que toute sa colère était basée là-dessus. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ça n'a pas été plus efficace, là, tu sais, que de juste prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer au lieu de vivre de la colère envers tes élèves ou, tu sais. Puis c'est ça, on prend plus de temps, on est pressé de livrer la performance parce qu'à quelque part, on nous le demande puis on s'impose un paquet d'affaires, mais c'est pas réaliste, tu sais. Fait qu'elle, elle a vécu, là, un événement, écoute, je vous raconterai pas les détails, mais je pensais pas entendre ça d'une enseignante, de genre d'affaires qui peut se passer dans une classe, là. Mais c'est complètement... c'est ça. Mais là, puis là, on est pris dans un conflit, puis la matière a pas plus été livrée que si elle avait pris le temps d'être à l'écoute de ce qui était en train de se passer, tu sais. Elle était occupée à défendre sa valeur, puis l'élève est occupé à défendre sa valeur, puis pendant que les deux sont occupés à défendre leur valeur, ben il y a pas de conversation, puis il y a pas d'écoute. Puis ça, c'est fréquent dans le monde scolaire, là, ça. Défendre nos valeurs, on mérite pas ça, nous autres, on mérite pas ci, les élèves, on mérite pas ça, les parents, on mérite pas ça. Ça, c'est toute la défense de valeurs, mais personne qui s'écoute pendant ce temps-là, tu sais. Puis une autre preuve de ça, c'est ça la différence. Puis j'ai un exemple, il y a 2 ans, j'enseignais l'anglais dans une classe d'adaptation scolaire. Je faisais de la suppléance en même temps, puis je suis arrivée dans une classe difficile que je connaissais pas. Puis je savais qu'il y avait un élève turbulent, je me souviens plus de son nom. Lui, là, il cherche l'attention. Négativement, bien évidemment. Et dans la classe, il se lève la main, puis il commence à me parler de pipi, caca. Ça, c'était aucunement pertinent. Là. Je venais de rentrer, ça faisait une minute que j'étais là. Puis là, il me parle de pipi caca, puis là, il se trouve bien drôle, puis les autres rient, puis tout ça. Puis un enseignant qui cherche à défendre sa valeur à ce moment-là, c'est inacceptable, sors d'ici, puis là, la bagarre...
Tu viendras pas déranger ma classe.
C'est ça, le conflit démarre.
Ouais.
Moi, j'étais là en me disant, ben moi, je vais pas aller là. Puis là, je l'ai questionné. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Ben, madame, parce que je suis un idiot. Ça a été sa réponse. J'ai dit, ah oui, pourquoi tu penses que tu es un idiot? Ben, vous voyez bien, madame, que je suis dans une classe spéciale, puis on est tous des idiots. Là, je comprends qu'il se dévalorise au maximum, qu'il n'accepte pas le fait que.
Dans une classe spécialisée.
Oui, puis qu'il n'y a pas un rendement standard à la société de ce qu'on impose à nos enfants, puis blablabla. Puis là, j'ai dit, tu sais. Que tu me dises pipi, caca, vagin, là, j'y nomme tous les mots que je peux y nommer dans la catégorie qui était partie. Puis je dis que tu me dises tout ça, je vais pas penser que tu es un idiot. Je vais juste penser que tu cherches à entrer en communication avec moi, puis on va apprendre d'autres façons de le faire. Ça te tente-tu? Là, il a pas répondu, mais ça s'est arrêté là. Ça a pris 5 minutes. Il n'y a jamais eu de conflit dans la classe. La classe ne s'est jamais désorganisée. On a jasé une 15aine de minutes parce que je ne connaissais pas les élèves. Après ça, on a fait un cours, puis bonne journée, madame, bonjour, madame, dans le corridor, dans les semaines d'après. Mais ça prend le temps, c'est ça. Mais pour prendre le temps, il faut que tu aies une ouverture aussi à ne pas défendre ta valeur à toi que, théoriquement, tu n'as pas à défendre. T'sais?
Moi, j'ai souvent comme expression, ça parle pas de moi. Mm-hmm. Ce qu'il est en train de faire, là, ça parle pas de moi, c'est pas mm-hmm. moi, c'est pas moi qui est en cause. Fait que moi, quand je rentre dans une... ou que je pourrais rentrer dans un conflit parce qu'un élève m'emmène vers là, c'est souvent... des fois, j'embarque, là, mais c'est souvent la première chose. Oui, oui, exactement. Oui. Puis ça dépend à quel moment de la journée qui nous pogne, qu'est-ce que tu as vécu ouais. avant, qu'est-ce qui s'en vient après, puis et j'ai eu le temps avant la cloche, c'est parce que s'il y a un endroit où le temps, il est drillé ou il est calculé, c'est bien dans les écoles. T'sais, on passe nos temps à avoir des cloches, puis il faut que ça rentre mm-hmm. dans la case là parce qu'on s'en va faire ça, puis on s'en va faire ça. Mais je me rappelle plus, à la base, ça parle pas de moi, donc de pas le prendre personnel. Puis quand je travaille avec les équipes, c'est souvent ça que j'ai beaucoup à travailler avec l'enseignante ou l'éducatrice spécialisée, de dire, ben mais ça, ça veut rien dire par rapport à toi. Toi, ta valeur, t'es une prof, tu fais ce que t'as à faire, ça fait 25 ans que tu le fais, puis ça changera pas.
C'est pas contre toi.
Ben non, c'est ça, mm-hmm. exactement, ouais.
Il vit de la colère, mais ça n'a rien à voir avec toi.
Non, c'est ça. Ça vient rien t'enlever.
Mm-hmm.
Ça... Puis j'ai travaillé dans des classes spécialisées où, mon Dieu, j'en ai reçu des coups, des crachats, des... Vraiment, là, c'était pas jojo, cette classe-là. Mais au final, se faire cracher d'en face, là, c'est insultant, là, vraiment insultant. Ben oui. Et dans ta tête, t'en fais bien des affaires que t'as pas le droit de faire. Là, tu fais tout ça dans ta tête, mais tu te rappelles que c'est pas après moi qui est fâché, cet enfant-là, c'est moi qui le reçoit. Puis ça fait pas que c'est plus acceptable, mm-hmm. puis ça fait pas que... un coup que la crise est passée, que je lui rappelle pas que ça, c'est un comportement inacceptable, puis que ça, il y a une mm-hmm. conséquence X ou whatever, ça l'enlève pas ça, mais ça me donne rien de grimper encore plus dans les rideaux ou de mm-hmm. d'accorder quelque chose personnellement à ma valeur par rapport à cet événement-là. Ça aurait été n'importe qui aurait été là, il aurait reçu le crachat. C'était moi qui étais là, cette fois-là.
Mm-hmm.
Ouais.
Mais tu sais, ça nous empêche pas parfois de monter dans les rideaux, comme tu dis.
Ben
parce
non,
que
seulement. Oui.
On est humain, puis ouais. ça vient nous chercher. Là, mm-hmm. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre le petit recul, puis d'aller, tu sais, d'essayer d'analyser
après,
ça.
Après, par après, oui.
T'sais. Mais là, toi et moi, on a un beau gros bagage, puis on a plein d'outils, tu sais, dans notre sac. Il y a des gens, il y a des parents, il y a des ados, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont moins d'outils, là, tu sais, pour exact. Le faire. Fait que, tu sais, moi, je me trouve chanceuse d'avoir des outils comme ça pour être capable de prendre un recul, tu sais.
Puis il faut pas oublier que c'est ça. Quand on travaille dans le milieu scolaire, on se ramasse des outils, il y a une formation, il y a un paquet de trucs, mais le parent, il l'a pas toujours nécessairement cet aspect-là. Puis il faut pas oublier que tout le monde fait son mieux avec ce qu'il a.
Voilà.
L'idée, c'est d'arrêter de se blâmer un et voilà. l'autre et de comprendre que chacun fait son mieux avec ce qu'il a dans sa réalité. Donc, c'est avantageux d'aller voir la réalité de l'autre. C'est comme le parent qui dit « Voyons donc, mon enfant peut pas faire ça. Voyons donc, je vous crois pas parce que l'enfant, mettons, a eu un comportement X dans la classe. Je vous crois pas, mon enfant fait pas ça. » Mais c'est ça, c'est au lieu d'aller dans « voyons donc » d'un bord, de se faire confiance puis de comprendre la réalité de l'autre puis comprendre que l'enfant tout seul à la maison va pas agir de la même façon que d'entourer...
Défendre une place dans un groupe, c'est très différent.
C'est deux choses différentes. Ouais. De là à... C'est avantageux d'aller voir la réalité du parent. Le parent, il est probablement dépassé pour un paquet d'affaires, là. Puis on le sait pas tant qu'on va pas voir ça. Puis de blâmer, puis de donner des coups sur un ou sur l'autre, ça nous fait pas avancer, ça, en tant que société. Puis oui, le système scolaire, ça va pas super bien en ce moment, mais il y a aussi une question de gestion d'émotions là-dedans aussi, là. Pour donner des ateliers dans les écoles, je le vois, les gens qui sont capables de... Comme cette jeune prof-là, c'est une jeune prof qui a fait l'intervention d'une autre façon. qui a pris le temps, qui a choisi ça. C'est un choix de prendre le temps. En tant que prof, de parler aux parents, puis en tant que parent, de parler à son prof ou de prendre le temps de voir les réalités de l'autre. Puis ce choix-là, ben c'est pas le plus facile. Oups, j'ai craché sur toi. C'est pas le plus facile, ce choix-là. Sauf qu'en bout de ligne, il est avantageux. Mais oui, ça demande de l'effort, puis oui, ça demande du temps, puis oui, mais on est rendu là parce qu'on s'écoute plus. On est distrait par un paquet d'affaires, puis on s'écoute plus.
Mais puis on passe notre temps... tu sais, moi, mon métier d'éducatrice spécialisée en scolaire, moi, je le fais pas de cette façon-là parce que j'ai un poste qui me permet de prendre un recul, d'avoir un pas de recul, puis de faire réfléchir les équipes avec lesquelles je travaille. Mais je l'ai fait et j'accompagne des équipes qui le font encore. On passe notre temps à mettre un plaster quelque part. Oups, il y a une chicane là. Oups, OK, tu lui donnes une feuille de route. Quand tu as 3 verres, tu as le droit à une récompense. Mais on... Parce que sont 2, sont 3 dans une école de 700, ils doivent régler tous les problèmes. Puis après ça, ben, tu as le prof qui a ses exigences. Puis on doit... Fait qu'on passe notre temps à juste mettre un plaster vraiment tout le temps. Puis à la fin d'une journée, là... une éducatrice spécialisée, je vais parler de l'éducatrice spécialisée parce que c'est mon métier, mais on pourrait parler d'un prof ou de... Tu sais, ils sont morts, ils sont fatigués, là, parce qu'ils ont mis des plasters partout. Fait que quand mon service à moi va intervenir dans une école, oui, ça prend du temps, on s'assoit, on réfléchit, ça prend du temps, mais c'est un investissement qu'on leur dit, bien, ça nous permet de mieux comprendre. Puis après ça, tu peux le généraliser pour d'autres enfants, le modèle que nous, on propose, mais... Mais c'est, on va s'asseoir et on va bien le comprendre, l'enfant, pour justement arrêter de mettre un plaster constamment. Parce que c'est très frustrant aussi. Tu sais, on parlait du sentiment de compétence. Comment l'école aussi est fait, qui fait qu'on n'a pas tant de temps ou qu'il y a 3 TES pour 700 élèves au retour d'une récréation ou d'un dîner, là, fou, ça défile dans le bureau là, des élèves, puis si on veut être capable de régler tout le monde. Mais tu sais, toute cette notion-là d'avoir le temps de réfléchir, de se dire « Hey, Boba, OK, attends, il l'a fait ça cette semaine, il l'a fait. Oh, attends, je vais appeler le parent, je vais lui demander ce qu'il en pense de... » Non, c'est beaucoup plus... là, on est obligé de suspendre votre enfant parce que, tu sais, donc on est vraiment dans... constamment, fait que c'est une denrée rare, le temps, et c'est dommage parce que c'est ça qui, justement, vient tout embrouiller le système d'éducation, à mon avis, là. Fait que tu vois, l'idée de s'attarder puis de comprendre puis de collaborer, là, tout ça, là, ce qui nous empêcherait de tomber dans... la justification de nos valeurs, dans la colère, ce qui nous empêcherait. C'est comme si ça n'existait pas dans le système d'éducation, tant pour le parent que pour l'école.
Puis c'est flagrant parce que...
Puis là, je crinquais.
Ben, c'est
tout le temps crinqué.
C'est que ça vient nous chercher parce que tout le monde veut le bien de tout le monde là-dedans, tu sais. Puis même quand moi, je donne des formations dans les écoles, je fais... 4 ou 5 ateliers de 3 heures espacés d'un mois. Fait que c'est du coaching, on revient. Puis souvent, après un, il y en a qui quittent. Puis qui disent « Ah, oh, finalement, je pourrais pas faire les quatre ateliers de trois heures parce que j'ai trop de corrections, j'ai trop d'affaires. Donc, on choisit de faire des choses X. Au lieu de prendre le temps, parce que moi, ce que je leur dis, c'est « Prends le temps de venir. » Je te suggère de prendre le temps de venir parce que ça va justement alléger la suite des choses si tu peux changer ta façon de la voir, d'être toujours dans le rush, d'être toujours en colère, d'être toujours si... C'est fatigant, ça. Fait que prends le temps de travailler sur ta colère, ton anxiété à toi, puis de comprendre les mécanismes. Tu vas t'aider toi. C'est comme mettre son masque en premier... avant de mettre le masque de ton enfant dans l'avion ou de quelqu'un d'autre, tu sais. Prends soin de toi, comprends des choses, et tu vas voir que ta pile de correction, après ça, elle va être beaucoup moins anxiogène qu'elle l'est aujourd'hui. Fait que ça revient à prendre le temps, quelque chose qu'on ne fait plus pour soi. On ne prend plus le temps pour soi ou pour l'autre. On est des machines, tu sais. On fait juste y aller. Let's go,
Annie,
let's go,
let's go. Annie, tu as m'élevé, non?
Fait que C'est ça. C'est qu'on a oublié de prendre le temps à quelque part. On est tellement stimulé de partout plein d'affaires qu'on prend pas le temps. On prend pas le temps de comprendre nos parents, puis on prend pas le temps de comprendre les gens dans le système d'éducation quand on n'est pas dedans, parce que tu peux pas comprendre le système d'éducation ou le fonctionnement d'une école tant que tu n'as pas mis deux pieds dedans et que tu n'as pas travaillé dedans. Ça, c'est clair.
Exact.
Tu peux avoir tous les jugements du monde et au même principe que tu ne peux pas juger un parent tant que tu n'as pas été dans ses bottines, ce qui est impossible parce que chaque enfant est différent et chaque parent est différent. Fait qu'il n'y a pas de jugement ou de défense de valeur à avoir. C'est j'ai juste le mot « useless » en anglais, mais c'est inutile parce qu'on gaspille un temps énorme à se fâcher contre quelque chose qu'on ne peut pas juger, on n'est pas à sa place. On n'a pas les mêmes enregistrements, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes perceptions. Donc, on perd ce temps-là, puis pendant ce temps-là, on ne cherche pas à se comprendre.
Voilà. Puis j'ai un cas qui me vient en tête, justement, d'un jour où j'ai pris le temps d'appeler un parent. Bien, je travaillais dans une ressource où on avait le temps de recréer le lien, le pont avec le parent. Et cet enfant-là était constamment menacé, c'est un enfant issu de la communauté culturelle, il était menacé de retourner dans son pays par le parent. Puis évidemment, la première chose qu'on entend dans les écoles, dans des situations comme celle-là, c'est comme la situation développementale de l'enfant est compromise, on voudrait appeler à des PJ, on trouve ça là, de nos yeux à nous, là, voyons, impensable. Et nous, on avait lâché un coup de fil aux parents pour essayer de comprendre. Mais pourquoi, tu sais, votre enfant vit tellement de déceptions à toutes les fois qu'il n'y a pas une bonne note, à toutes les fois. Et il nous dit ça. Puis le parent nous avait dit, bien, vous savez, madame, nous, on a immigré ici au Québec pour donner le meilleur à nos enfants. Et là, il n'est pas digne de ça. Il échoue. Fait que nous, on essaye de lui faire comprendre que, bien, si tu n'y arrives pas, ben tu vas retourner là-bas. Puis là, nous, on avait expliqué aux parents, on a dit, oui, mais là, vous le mettez dans une boucle qui est constamment déçue de lui, qui va... Fait que si on travaillait... Donc, nous, à la base, on comprend qu'on veut la même affaire pour l'enfant. Mm-hmm. On veut qu'il réussisse. Il y a un sentiment d'incompétence parentale derrière ce comportement-là, de vouloir le ramener. Mais quand on a pris le temps de parler avec le parent, de dire... On va travailler ensemble là-dessus. On va travailler sur son anxiété parce que là, il devient anxieux. Là, il veut fuir la tâche. Il ne veut même pas la faire de peur de l'échouer puis que vous soyez déçus. Donc, comment on peut... Puis, écoute, c'est la meilleure demi-heure. Je ne sais pas combien de temps ça avait passé, mais c'était vraiment un beau moment de compréhension pour pouvoir aider l'enfant puis d'essayer de collaborer avec le parent que si on n'est pas ensemble là-dedans... on n'y arrivera pas. Parce que, tu sais, dans le système scolaire, en tout cas, moi, je le sais, puis je pense qu'on est tous dans cette même idée-là, c'est que moi, on a un pouvoir sur l'enfant, pas un pouvoir hiérarchique, mais plutôt de le faire cheminer, de le faire avancer, de lui apprendre des choses. Mais au final, le parent restera toujours le premier modèle, puis donc, le poids que j'ai, si j'ai le parent contre moi à l'école, c'est, j'ai pas de poids parce que c'est le parent qui est toujours celui-là, le premier. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben vaut mieux que tu l'ailles de ton côté, le parent, vaut mieux que tu collabores avec lui pour qu'on puisse répondre davantage, là.
Puis des fois, le parent collaborera pas. Dans réalité, il va pas collaborer. T'sais, dans ce cas-là, il a collaboré, mais... Aussi, c'est de se détacher puis de comprendre que, OK, mais il y a le droit, le parent. Tu n'as pas de contrôle sur le parent. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, je vais essayer de faire de mon mieux, simplement, sans se taper sa tête ou avoir une colère XY, ce qui va t'enlever de l'énergie pour justement faire du mieux que tu peux avec cet enfant-là, tu sais. Puis si je fais le parallèle avec ton appel aux parents... Là, tu as essayé d'aller guérir le bobo au lieu de mettre un plaster puis d'aller travailler sur ce qui est vraiment problématique. Qu'est-ce que ça aurait été de mettre un plaster dans ce cas-là au lieu d'appeler le parent pour travailler le bobo, tu sais? De le mettre en retrait, d'appeler à des PJ,
bien, probablement, oui, c'est ça. Dans des propos comme ceux-là,
ouais.
On serait porté à se dire, bien là, l'enfant est maltraité, voyons, ouais. Il peut pas... appeler à des PJ, c'est peut-être un bien grand mot parce qu'on sait très bien que... ça, c'est pas parce que t'appelles la DPJ que t'as des solutions ou, tu sais, l'idée, c'est pas ça, mais c'est le genre de négligence qu'on pourrait porter à juger, ou encore de couper les ponts avec le parent, puis de plus envoyer les notes à la maison, alors de plus mettre au courant le parent de qu'est-ce qui se passe, parce qu'on veut pas que l'enfant soit exposé à, alors qu'on fait la plus grosse erreur, parce que la journée que tu as besoin du parent, ben là, voyons, vous m'avez pas dit ça, que ça allait pas comme ça, tu sais, ou... Fait mais c'est un genre de comportement qu'on pourrait avoir là, dans les écoles, de couper les ponts avec les parents, alors qu'on ne fait pas la bonne chose quand on fait ça.
Ben, en bout de ligne, c'est pas avantageux.
T'sais. Non.
Mais c'est super intéressant, ça. Puis, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Mais ça revient à prendre le temps. Prendre le temps. Quelque chose que... Peut-être que si vous êtes parent, de prendre le temps d'aller voir la perception de l'enseignant, des éducateurs, des éducatrices, etc. Et si on travaille dans le milieu scolaire, de prendre le temps d'aller voir la perception du parent, ce qu'il vit, comment ça va, Des fois, on oublie de faire ça. Puis ça fait qu'en bout de ligne, on n'est plus des humains, là. On oublie de collaborer, on oublie de travailler ensemble, on oublie juste de vivre dans le moment présent aussi, là.
Oh. Oui, puis tu sais, de quitter cette espèce de rapport client-là, c'est comme on n'a pas, on n'est pas obligé d'avoir, comment on appelle ça, là, un souci de performance, ou on n'est pas obligé d'avoir des résultats. Moi, l'enfant qui vient dans ma classe ou qui, je dois pas faire en sorte qu'il y ait 90, puis s'il n'y a pas 90, j'ai échoué. Ou tu sais, c'est pas ce rapport-là. Puis le parent a non plus pas à dire, ben là, je vous l'amène à tous les matins. Tu sais, donc, cette dualité-là que je parlais au début, n'est pas... ce rapport client-là enlève tout, justement, le temps de s'écouter, d'être empathique, d'essayer de comprendre. Ou... Donc, ouais, c'est ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Continue.
Prendre le temps, Isa. Prendre le temps.
Voilà.
Ben,
Alex, tu parles de prendre le temps. Parce que moi, ce que j'entends de vous, c'est plus au niveau que vous n'avez pas de temps. Parce qu'il manque du personnel, il manque... des éducatrices spécialisées, membres des professeurs. Et...
C'est ça que je disais tantôt, le système scolaire a de la difficulté en ce moment parce qu'il manque de monde. Mais ça reste aussi toujours un choix de le prendre, ce temps-là. Même si tu penses que tu ne l'as pas parce que tu te mets une pression à performer souvent. Mais tu veux performer pour qui, pourquoi, là? Pour augmenter ta valeur, pour prouver ta valeur, pour défendre ta valeur, pour atteindre des standards. Mais c'est qui a mis ces standards-là? Souvent, c'est toi-même qui se met ça. Puis c'est toi-même qui choisis d'aller là ou de prendre le temps. Tu sais, moi, je vais choisir, mettons, dans une période d'une heure et quart avec des élèves, je vais choisir, si j'ai devant moi un groupe complètement dysfonctionnel... Ben, je vais pas choisir de prendre le temps, 20 minutes, de dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va, gang. J'aime mieux faire un cours de 55 minutes efficace que de me battre pendant une heure et quart parce que puis à chercher à pousser ma matière, à avoir un rendement, à avoir une note. Mes élèves, ils sont pas disponibles, ils vont pas bien.
Ça me donnera rien.
Ça me donnera rien en bout de ligne, mais je choisis de prendre ce temps-là avec eux qui est humain, puis après ça. J'ai 55 minutes à moi avec eux, puis c'est super efficace la majorité du temps. Puis si ça ne l'est pas, des fois c'était 30 minutes, des fois c'était même pas de la période parce que ça aurait servi à rien, académiquement parlant, tu sais. Mais si je cherche à pousser ma matière pour être performante parce qu'il y a un examen, ben là, je suis pas du tout dans l'écoute de ce qu'il y a devant moi là, en ce moment, tu sais. Fait que c'est toujours un choix. De dire, OK, mais je vais mettre l'examen là, ou je vais le faire d'une autre façon, ou. Mais c'est toujours difficile de changer sa façon de faire quand tu as un plan aussi. Il y a l'anxiété qui vient avec ça. Donc, de là, la gestion de l'émotion, de tout ça, ça se change des plans. Mais il faut que tu sois capable de gérer ton anxiété par rapport à ça. Puis de comprendre tout ça. Mais effectivement, il n'y en a pas. Oui, il manque de profs, oui, il manque de TES, il manque de psychologues, il manque d'un paquet d'affaires dans les écoles en ce moment. Mais reste que toi, quand tu es dedans, tu as le choix.
Tu peux faire la différence quand même. T'sais.
Exact.
Parce qu'on pourrait être en colère avec le manque de psychologues, le manque de TES, le manque de tout.
Mais pendant que tu es en colère...
Ça va te donner quoi?
Tu vides ton jus, puis tu t'es fatigué parce que fatiguant est en colère. Là. Mm-hmm. Mais pendant que tu es là-dedans, tu oublies de pourquoi tu es là. Pour faire la différence, tu sais, je reprends ma jeune enseignante qui a choisi de prendre 5 minutes avant le cours puis d'aborder l'élève d'une autre façon, ben elle a changé toute la suite des choses pour cet élève-là qui, maintenant, la salue, lui dit bonjour, s'assoit en classe, qui n'est pas en colère. Elle a pris 5 minutes. Ben c'est un 5 minutes qui est avantageux fois 1000 pour tout le monde, là. Mais elle a choisi de le prendre. Elle aurait pu choisir autre chose. « Ah, j'ai pas le temps aujourd'hui, il faut rentrer en matière. » Ben non, elle a choisi ça. Puis elle a choisi, en fait, ce qu'elle a choisi, c'est l'humain. Au lieu
Mais c'est ça aussi, hein, le milieu scolaire, c'est exactement ça. C'est, on travaille avec des humains, on travaille pas avec des machines.
Exact.
Puis on peut pas... puis c'est correct de baliser hein, le cadre de notre travail de par les minutes de ci, le tant de minutes de maths, tant de minutes de ci, tout ce qui régit en fait le métier d'enseignant ou encore d'éducateur spécialisé ou de toute autre fonction qui est balisé comme ça, mais au final, on peut pas être... tu sais, quand je regarde les tâches, des fois, des enseignants qui disent, ben il y a 90 minutes pour ça, mm-hmm. 10 minutes pour ça, 10... Mais tu sais, des humains, des fois, ça déborde. Puis tu peux décider de rester à cheval sur ta tâche, puis c'est correct aussi mm-hmm. de le faire, parce qu'il faut les baliser, notre travail. Mais tu peux aussi décider de dire, OK, bon... Là, je vais prendre un 5 minutes, 10 minutes de plus dans ce qui devrait être prévu à l'horaire, puis je vais en enlever un peu plus là mm-hmm. pour pouvoir gagner éventuellement plus tard. C'est comme toujours un... Ça l'ajoute à la complexité parce qu'on est avec des humains, puis on ne sait jamais ce qui va nous rebondir mm-hmm. Au moment. Fait que, mais si tu décides de rester sur ton cadre, puis de ne pas être flexible, puis que de passer ta matière, c'est là que tu... C'est là que tu tires une balle dans le pied, comme on pourrait mm-hmm. dire dans l'expression. Fait que de prendre le temps, malgré le temps qui manque, il y a un avantage à faire ça, là, certainement. Là, certainement. Puis après ça, bon, tu peux pas pallier. S'il manque un prof, s'il n'y a pas de TES, s'il n'y a pas de ci, s'il n'y a pas de ça, il n'y en a pas. Mais tu vas-tu être craqué parce qu'il n'y en a pas ou tu vas faire avec parce qu'il n'y en
là.
A pas? Oui.
Tu sais? Alors, tu choisis quoi?
Puis comment je peux être là, présent, dans ce manque-là? T'sais?
C'est pour ça que je trouve que dans le milieu scolaire, c'est avantageux de travailler sur sa gestion d'émotions parce qu'on travaille avec des humains, puis des petits humains, puis des humains qui sont en train d'apprendre un paquet d'affaires. On travaille avec des parents. Il y a beaucoup de gens, là. Mais l'humain, à la base, c'est un être d'émotions. Fait que tu travailles avec des émotions à longueur de journée, mais toi, quand tu n'es pas capable de gérer... ta propre anxiété, ta propre colère, tes propres valeurs, ta propre dévalorisation, ben c'est là que tu tombes en conflit, en stress, en anxiété. Tu travailles des 70 heures, puis là, ben tu finis en burn-out, puis tu finis en dépression, puis tu finis... Mais quand tu en arrives à un point où tu es capable de gérer, puis de pallier, puis de comprendre la réalité que de la colère, pourquoi je suis en colère? OK, parce que je suis en train de défendre ma valeur. OK, pourquoi j'ai peur d'échouer, j'ai peur que mon élève échoue. Mais attends, moi, je suis une partie de sa réussite et,
voilà.
Et je ne suis pas la seule responsable de sa réussite. Là. Attends un peu. Fait que quand tu réussis à déconstruire tes émotions puis dégérer, tu le vis complètement d'une autre façon dans ton travail, tu sais. Fait que moi, c'est ce que j'encouragerais les gens à faire, autant de se questionner en tant que parent, en tant qu'intervenant dans les milieux scolaires. Attends, pourquoi je vis de la colère? Pourquoi je vis de l'anxiété? Est-ce que je peux prendre plus de temps? Pourquoi je ne prends pas le temps? Puis de se questionner là-dessus pour revenir à une réalité qui est... On est des humains. Est-ce qu'on peut prendre du temps d'humain ou on n'est pas des robots? Fait que de revenir à la base un petit peu de la chose, puis nous, à s'imposer ou à décider de nos propres standards, de ce qu'on veut pour nous puis pour nos enfants et non pas les standards que la société impose... C'est pas ton choix, ça. T'sais? Fait que c'est quoi ton choix à toi? Toi, tu veux quoi là-dedans? T'sais? Fait que de se questionner tout par-ci, tout par-là dans ce sujet-là. Puis si vous avez besoin d'aide pour vous questionner,
Branche-toi sur toi.ca, hein? C'est
tout ça? Ben oui, c'est ça. Branche-toi sur toi.ca. Puis tu sais, moi, je fais des ateliers dans les écoles, puis je la vois la différence. Puis j'en vois des parents en bureau, je la vois la différence dans les interventions. Quand le parent est capable de gérer son émotion, quand le prof est capable de gérer son émotion, quand la direction est capable de gérer son émotion et d'aller dans l'humain, quel genre de d'interaction on a après, ben c'est magnifique, tu sais. Fait que si vous voulez plus d'infos, du coaching, peu importe, allez voir le site, là, branche-toi-sur-toi.ca. On l'a-tu dit?
Branche-toi-sur-toi.ca? Oui.
Branche-toi-sur-toi.ca.
Mais on l'a dit, hein?
Voilà.
Même moi, je l'ai dit, branche-toi-sur-toi.ca.
Oh, bravo!
Fait qu'allez voir ça, puis on en aura d'autres sûrement, des discussions sur l'éducation, puis sur tout ça, parce que c'est le futur, hein, nos enfants, c'est ça. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a toujours le choix. On a le choix de se questionner, puis on a le choix de nos actions, puis c'est pas de la faute à personne. Il y a des faits, et suite à ces faits-là, ben c'est ton choix de partir ou prendre action ou pas. C'est pas de la faute à personne. Puis quand on prend la responsabilité de nos colères, de tout ce qu'on vit, ben on est capable de les gérer, puis de vivre un niveau de bonheur qui est un petit peu plus élevé que quand on est toujours en conflit.
Voilà!
Bye, là!
Bye! Merci, bye, Alex! Bye! Bye. Bye.